Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
Bienvenue au Pharmascope.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'île de Montréal.
Bonjour, moi c'est Isabelle Hébert et je suis médecin de famille au GMFU Sacré-Cœur.
Ben, ça va Isa?
Ben ça va bien, Oli est pas là?
Ben non, congé. T'as eu un congé récemment toi aussi?
Ben oui.
C'est ça. J'attends toujours le mien.
Toi, t'as jamais eu de congé, je pense, hein? Comme...
Ça fait 161 épisodes que j'attends mon congé.
100% de présence.
Et que je suis assidu.
Vraiment, vraiment.
Fait qu'on a remplacé Oli par une invitée aujourd'hui?
On a une invitée spéciale.
Bonjour Mme Gravel.
Salut!
Comment ça va?
Ça va bien.
Tu veux-tu prendre une petite seconde pour te présenter?
Oui, alors je suis Amélie Gravel, je suis médecin de famille au CIUS du Nord de l'île de Montréal et je pratique au GMFU Sacré-Cœur, comme Isabelle.
Puis comme moi, mettons.
Oui, oui. Oui, moi aussi.
Seigneur.
Amélie, c'est notre collègue et amie.
En tout cas, c'est au moins la collègue à Isabelle. Aïe, aïe,
mais
aïe,
non,
aïe,
Nico.
Aïe.
Tu sais que je t'apprécie aussi.
Ouais, c'est ça. On voit ça. Comment ça va?
Ça va bien.
Ça, c'est-tu l'anxiété liée au fait de participer à ton premier pharmascope qui transparaît dans ta réponse?
C'est exactement ce que j'allais verbaliser. Là. Il y a la petite fébrilité d'un premier pharmascope.
Bon. Ben, on te remercie d'avoir accepté de te joindre à nous. On est très contents. On va te demander de déclarer des potentiels conflits d'intérêts avant de commencer.
Oui, alors je n'ai aucun conflit d'intérêts, ni pharmaceutique, ni lié à l'industrie, ni lié au diagnostic, ni rien.
Bon, parle-moi de ça. Aujourd'hui, Amélie, on t'a invité parce que on a révisé ensemble déjà un sujet qui se prête bien à un épisode, un nouveau médicament. Un médicament que clairement, d'ici à la fin de l'épisode, je vais à peu près toujours te laisser prononcer à ma place parce que sans joke, pas capable.
Oui, le phésolinétant.
J'aime mieux le nom commercial, le Véosa. Parce qu'il y a un H à la fin, fait que moi j'ai l'impression qu'il faut comme le.
Ah. T'as l'impression qu'il faut mettre 3 H dans le fond.
Un petit peu. Pas vous?
Non, mais c'est pas la première fois que tu as des impressions de prononciation qui diffèrent des miennes. Je trouve ça quand même sympathique et divertissant.
Tu vois, c'est poli comment tu l'as dit, hein?
Non, c'est mais c'est ça. Parce qu'après, là, tu me contamines, puis là, je suis obligée de dire « Mounjaro ».
Ça, c'est comme la toune du Jublia.
C'est exactement ce que j'allais dire, Nico. Depuis que tu m'as contaminée avec la toune du Jublia, je ne peux plus me la sortir de la tête.
Le solo de cloche à vache au début, là, je veux dire... Fait que bref, on va parler de Véosa aujourd'hui. On va en profiter aussi tant qu'à faire un épisode nouveau médicament pour aborder deux autres produits un peu plus rapidement par la suite, là, mais on va se concentrer sur... comment déjà, Amé?
Le phésolinétant.
Voilà. Fait que sur cette affaire-là. Fait qu'on peut commencer tout de suite par à quoi ça sert?
Oui, ben en fait, le phésolinétant est en fait le premier antagoniste du récepteur de neurokinine 3 approuvé au Canada. Alors, ça agit au niveau du centre de thermorégulation dans le cerveau et donc c'est utilisé et indiqué dans le traitement des symptômes vasomoteurs modérés à sévères associés à la ménopause.
Là, pour vrai, Isa, là, ça devient vraiment un enjeu, là.
Oui, je sais qu'est-ce que tu vas dire. Tu vas dire qu'on invite des gens trop brillants. Puis là, ils disent des mots comme neurokinine 3. Puis là, on a l'air un peu zouf, nous, à pas savoir de quoi il s'agit.
Sérieux? Tu savais même pas qu'il y en avait une. Tu as dit qu'il y en avait trois? Je sais. Bon, fait qu'en gros, ce que j'en comprends, c'est que c'est une affaire nouveau, parce qu'à ma connaissance, il n'existe pas de médicament avec ce mécanisme d'action-là là, déjà disponible dans le traitement des symptômes vasomoteurs liés à la ménopause, n'est-ce pas?
C'est le tout premier.
Puis, c'est pas hormonal, donc. À moins que tu m'apprennes que la neurokinine 3, là, ça se transforme en estrogène, je sais pas quoi. Là.
Non, c'est tout à fait non hormonal.
Okay. Fait que, ben, en tout cas, jusque-là, je vois quelque chose d'intéressant, j'imagine. On va se dire, là, des femmes qui souffrent de symptômes liés à la ménopause, notamment les symptômes vasomoteurs, je pense qu'il n'y en manque pas. Puis des options de traitement, on en a, mais qui viennent avec quand même chacune leurs enjeux. On pourra faire un petit tour peut-être à la fin, mais ça me semble pertinent d'avoir des nouveaux traitements à leur offrir, là.
Ben oui, tout à fait. C'est sûr que, tu sais, on le sait, là, c'est à peu près 80% des femmes ménopausées qui vont avoir des symptômes vasomoteurs associés à la ménopause. Puis, tu sais, en moyenne, ces symptômes-là, ça va durer pendant 7 ans et demi. Puis, c'est jusqu'à 50% de ces femmes-là aussi qui vont avoir des bouffées qui sont modérées à sévères. Donc, c'est sûr qu'il y a un besoin, là, dans la population, féminine. Donc, c'est ça, c'est intéressant, en fait, chez les femmes qui, ben, peuvent pas recevoir de l'hormonothérapie, substitutive. Hey, moi, ce mot-là, substitutive, il y a vraiment trop de S là-dedans.
C'est un vrai mot, ça?
De substitution.
Sais pas, moi, je dis remplacement. Moi, te le disais, là, j'ai un secret, là, je vais juste y aller pour remplacement.
OK, alors
Mais...
allons-y. Alors, on peut l'utiliser chez les femmes qui ne peuvent pas recevoir d'hormonothérapie de remplacement ou simplement même chez celles qui ne voudraient pas recevoir d'hormones, ce qui serait tout à fait.
Ouais, ce qu'on a en pratique, là, clairement, là, pour pas tout le temps des raisons super claires, mais il y a des femmes visiblement qui. Autant il y a l'autre côté aussi dont on a déjà parlé dans des épisodes sur la ménopause, mais il y a des femmes qui aiment moins l'idée d'avoir des hormones.
Tout à fait.
OK. Fait que traitement non hormonal, indiqué dans le soulagement des symptômes, seulement les symptômes vasomoteurs, hein, il n'y a aucune indication des autres symptômes liés à la ménopause, là.
Pour l'instant, ouais, c'est vraiment les bouffées vasomotrices.
Fait que la question qui tue, ben, ça marche-tu?
En fait, oui, ça fonctionne. L'efficacité a surtout été étudiée dans plusieurs études. La principale étude, en fait, est une étude qui combine Skylight 1 et Skylight 2. Donc, c'est deux études randomisées à double insu, identiques avec les mêmes paramètres, qui ont été réalisées entre 2019 et 2021. Évidemment, c'était des études qui étaient financées par le fabricant, qui comptait 1 200 femmes ménopausées, qui avaient entre 40 et 65 ans, en Europe, en Amérique du Nord, qui avaient au moins 7 bouffées de chaleur modérées à sévères par jour.
Peut-être une petite mention ici sur qu'est-ce qu'une bouffée de chaleur modérée à sévère, parce qu'on dirait que je trouve quand même les définitions,
Ouais,
je sais pas,
alors,
plus simples que je me serais attendu.
oui, fait que la bouffée, pour eux, le symptôme vasomoteur modéré, en fait, c'est la sensation de chaleur accompagnée de sudation, là, de diaphorése, qui permet encore de vaquer à ses activités. Versus la bouffée sévère, là, à ce moment-là, on est encore dans la sensation de chaleur avec de la diaphorése à nouveau, mais cette fois-ci qui nécessite une interruption de nos activités. Donc, on est tellement dans le chaud et la sueur qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait.
Que la légère aussi où t'as chaud mais t'es pas mouillé.
C'est ça exactement.
Celle-là, elle comptait pas.
Non, celle-là n'était pas intéressante.
Fait que puis peut-être juste pour clarifier, tu dis deux études identiques, Skylight 1, Skylight 2, ben tu sais, c'est le. On est habitué maintenant, là, c'est l'idée de faire deux études pour obtenir ton approbation. Fait que les compagnies font à peu près tout ça maintenant, puis souvent même les deux études sont publiées dans la même publication. Là, ici, c'était pas le cas, là, mais souvent maintenant, c'est rendu comme ça. Fait que c'est tout à fait logique, là, c'est une exigence des autorités, évidemment. Pour permettre une puissance statistique, le fait de faire deux études séparées, mine de rien, tu viens d'éliminer le plein de risques de trouvailles hasardeuses, puis tout ça. Fait que c'est le concept classique qu'on voit tout le temps, finalement, quand on essaie de démontrer l'efficacité puis la sécurité d'un nouveau médicament.
Voilà.
Fait que Skylight 1, Skylight 2, fait qu'on peut les combiner, là, clairement, j'imagine, si on parle de méthodologie, Amy, parce que c'est la même chose, on ne le répétera pas deux fois.
Exact. Oui.
Parfait.
Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont randomisé en un pour un pour un, donc dans un groupe fésolinétant 30 mg, fésolinétant 45 mg ou groupe placebo. Et ce qu'ils ont analysé, ce sont quatre issues principales, soit la diminution de la fréquence quotidienne des bouffées vasomotrices après 4 semaines, la même diminution mais après 12 semaines, la diminution de l'intensité des bouffées vasomotrices après 4 semaines et après 12 semaines. Donc, il y en a-tu moins à 4 semaines puis à 12 semaines, puis sont-tu moins intenses
Puis
à 4 semaines et 12 semaines?
on dirait que c'est vraiment écrit comme ça dans leur publication, là, quatre études, quatre co-études, quatre co-issues primaires. Ça me semble de la triche. Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Mais bon.
Enfin, c'est ce qu'ils ont fait. Et ce que ça a donné comme résultat, en fait, c'est que par rapport au placebo, le fésolinétant à 45 mg a permis une diminution de 11,2 bouffées quotidiennes à 6,2 bouffées après 4 semaines, puis 5,2 bouffées quotidiennes après 12 semaines. Le placebo, en comparaison, permettait une diminution de 11 bouffées à 6-7 bouffées après 12 semaines.
Fait que je sais ça, faire ça simple. Tout le monde est parti en moyenne à peu près à 11 bouffées de chaleur par jour, modérées à
C'est
sévères.
ça.
Puis là, au bout de. Je vais me concentrer, mettons, sur le 12 semaines, parce qu'en gros, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas une grosse différence là, à 4 ou à 12 semaines. Fait qu'à 12 semaines, mettons, avec le physolinotant 45 mg, qui est la dose disponible à Prouveau Canada, on est passé de 11 à 6, 5,
Ben, à 5.
à
Cinq. Ouais,
5.
5.
11 à 5, fait qu'on a diminué de 6, alors que dans le groupe placebo, on est passé de 11 à 6, 7 selon Skylight 1, Skylight 2.
Exact.
Fait qu'on dirait déjà, je suis quand même étonné de la réponse dans le groupe placebo, ça. On a quand même une diminution de pas loin de 40% des bouffées de chaleur quotidiennes modérées à sévères avec un placebo.
Tu t'expliques ça comment?
Ben, je vais te le dire, je compte sur
Je
toi.
te l'explique pas.
Pas de mauvaise nouvelle. Puis là, ben, l'affaire que ça fait, c'est que si on compare donc les deux diminutions, donc la diminution au médicament et la diminution de placebo, on se ramasse juste avec une différence de genre 3 bouffées de chaleur de moins par jour.
Mettons deux.
Ouais.
Bon, ça dépend de laquelle, ouais. 2 ou 3 bouffées de chaleur de moins par jour.
C'est ça.
On dirait que dit comme ça, je sais pas, j'ai jamais eu bouffée de chaleur, je pense, là. On dirait que c'est.
Pense-y, c'est quand même deux fois moins où tu arrêtes de faire des choses dans ta journée parce que c'est tellement sévère que tu peux pas continuer.
OK. Puis mettons, si on regarde, bon, on aime mieux les issues dichotomiques. Généralement, on le sait, les taux de réponse, ces affaires-là, ça permet de calculer des NNT, puis je pense que c'est un peu plus clair à se mettre en tête. Ils ont-tu regardé ça, les taux de réponse?
Oui, ils ont regardé ça. Dans le fond, ils ont regardé le nombre de femmes qui avaient une diminution de 50% de leur bouffée vasomotrice. Avec le physolinétant, 45 mg, il y a 59% des participantes qui ont noté une diminution de 50% des bouffées versus 36% chez celles qui recevaient le placebo. Donc, c'est une différence qui est quand même significative avec un NNT à 5.
Ah, mais tu vois, hein, déjà dit comme ça, on dirait que ça me paraît plus vendeur que tantôt.
Avoue, hein, les NNT à 5, c'est toujours bien vendeur.
Mais c'est intéressant, puis on dirait que je trouve que ça se communique clairement mieux, on dirait, à une patiente, là, tu sais. Vous avez, grosso modo, 3 chances sur 5 de noter en commençant le traitement, dont à peu près 60%, là, d'avoir une diminution de moins 50% de bouffée de chaleur, puis dans les faits, par rapport au placebo, d'une différence qui est cliniquement, pas juste statistiquement, mais cliniquement intéressante, là, comme tu dis, un NNT à 5. On voit pas ça tous les jours.
Tout à fait. Puis l'autre chose qui est intéressante aussi dans ces études-là, c'est qu'ils ont remarqué qu'il y avait une amélioration significative de la qualité de vie puis du sommeil aussi via des questionnaires auto-administrés. Donc, c'était des issues secondaires, mais c'était quand même des bénéfices significatifs.
Qui fait du sens, j'imagine.
C'est sûr que si tu sues moins la nuit, probablement que ça améliore ton sommeil.
Okay. Fait quand même des chiffres qui me paraissent pas mauvais. On peut repenser, on l'a fait les épisodes sur la ménopause là, dans le passé. L'hormonothérapie de remplacement, c'est sûr que ça, y a rien qui égale ça en termes d'efficacité. Là, on a des chiffres dans les études d'hormonothérapie de remplacement, ma foi, assez solides, là, avec des diminutions de l'ordre d'à peu près 75% de la fréquence des bouffées de chaleur. Puis même. C'était genre pas loin de 80% des femmes là, qui avaient une résolution à peu près complète de leurs symptômes vasomoteurs. Là. On n'est pas tout à fait là, mais si on compare ça, par exemple, à nos autres traitements non hormonaux qu'on offre en ce moment aux patientes, c'est nos antidépresseurs, nos SRS, nos RSN, notre gabapentine et compagnie, on est pas mal dans ces chiffres-là, là.
Oui, tout à fait. Fait que pour les ISRS, les ISRS, on est autour entre 40 et 65 % de diminution. Avec des NNT qui varient selon l'agent entre 5 et 9, versus les IRSN, on est plus dans le 50 à 65 % avec un NNT qui se compare à 4-5. Donc, on est dans des chiffres qui sont tout à fait semblables. Dans les autres options, on avait les gabapentinoïdes, qui ont aussi un peu le même genre de pourcentage de diminution de bouffée de chaleur de 45 à 65 % avec des NNT autour de 8.
Fait que
Puis
c'est
bon, on a
ça,
des.
fait
Oui,
qu'on est
j'allais.
dans le même ordre de grandeur, bref, là.
Oui, on est dans le même ordre de grandeur, tout à fait.
OK.
Puis là, je t'entends me dire, mais ah oui, mais c'est une étude de 12 semaines. Que se passe-t-il ensuite? Oui, mais il y a réponse à cette question. Parce qu'ils ont fait une extension de 40 semaines après le fameux 12 semaines, où tout le groupe placebo a été re-randomisé dans des bras, soit de physolinétant 30 mg ou 45 mg. Puis l'effet qu'on observait pendant les 12 premières semaines a été maintenu à 52 semaines. Donc ça, c'est des résultats qui sont aussi encourageants, là.
ça va. Ils ont fait aussi d'autres études randomisées contrôlées par la suite, là, au-delà de Scalite 1, Scalite 2, mais il y avait comme, ils allaient chercher des créneaux particuliers, là. On peut peut-être passer vraiment vite, là.
Alors oui, il y a eu aussi Moonlight 1, qui est une étude à double insu, qui a été faite uniquement en Asie, avec 301 participantes ménopausées, là, qui avaient une moyenne de 10 bouffées de chaleur par jour. Ils ont étudié le fésolinétant 30 mg uniquement contre placebo. Ils ont, comme dans Scarlet 1 et Scarlet 2, observé une diminution du nombre quotidien de bouffées vasomotrices après 12 semaines. Mais en fait, le groupe placebo a eu la même tendance aussi, puis ils n'ont pas été capables de montrer une différence significative. Possiblement, est-ce que c'était en lien avec la dose qui était plus faible de 30 mg? C'est possible. Mais c'était pas mal ça pour l'étude Moonlight 1. L'autre étude qu'il y a eu aussi, c'est Daylight. Qui est une étude randomisée contrôlée double insu, qui, elle, cherchait à comparer le fésolinétant 45 mg contre placebo, mais qui a été menée chez 453 participantes ménopausées, chez qui l'hormonothérapie de remplacement n'était pas une option. Donc, ça incluait celles qui avaient une contre-indication à l'hormonothérapie, comme des antécédents de cancer, cancer du sein hormonodépendant ou des saignements utérins non diagnostiqués, ou encore chez des patientes qui avaient eu déjà par le passé un échec ou une intolérance à l'hormonothérapie de remplacement, ou encore, comme on disait tantôt, chez des femmes qui simplement voulaient pas prendre d'hormonothérapie de remplacement.
Ça, c'est quand
Donc,
même intéressant, là, je veux dire, pour l'application en pratique. Clairement, bon, 453 patientes avec toutes ces affaires-là séparées, j'imagine que ça fait pas des gros groupes là, dans chacune des contre-indications, mais il y a quoi d'intéressant? Parce que là, déjà, ça vient rejoindre une niche qui ressemble plus aux patientes à qui on cherche des options non hormonales. C'est bien.
exact.
Je trouve quand même un bel effort ici de la compagnie.
Tout à fait,
Puis
tout
je
à
rajouterais
fait.
un bel effort pour, évidemment, le nom des études.
Ouais.
Ils doivent commencer à espérer qu'ils vont arrêter d'en faire, là, parce qu'à un moment donné, ils vont manquer de mots avec l'aide dedans qui ont de l'allure.
On va avoir fait toutes les phases de la journée, là.
Fait que ça a donné quoi, ces femmes-là?
Comme résultat, ce que ça nous donnait, c'est que ça diminuait les bouffées vasomotrices quotidiennes de 11 à 3 par jour dans le groupe fésolinétant, contre 5 dans le groupe placebo. Donc, encore là, une diminution significative là, des bouffées de chaleur dans cette population-là.
Fait que là, on va se le dire, là, les chiffres sont pas pareils, mettons, par rapport à Skylight, mais on est
Ça
clairement dans les
ressemble.
mêmes ordres de grandeur. Il n'y a pas de révélation ici. Puis, il n'est pas sorti rien en termes de danger, là, j'imagine.
Non, pour cette population-là, pas d'enjeu particulier par
Fait
rapport au
que,
cancer.
je répète, là, 453 participantes séparées dans les différentes contre-indications, puis même avec un certain nombre de celles-là, c'était juste parce qu'ils ne voulaient pas d'hormones. Pas sûr que c'est de la science assez solide pour exclure tout risque, mais quand même. C'est bien d'avoir fait cette étude-là. Sinon, justement, en termes de sécurité, de façon générale, ça a l'air de quoi?
Ouais, fait que c'est un médicament qui est généralement bien toléré. Il n'y a pas eu vraiment de différence là, au niveau des pourcentages d'effets indésirables entre les groupes fésolinétant et placebo dans les études. Il y a une étude de sécurité qui a été faite aussi là, chez 1220 participantes sur 52 semaines. Puis ce qui revenait le plus souvent, c'était vraiment les céphalées, avec un pourcentage d'autour de 10 %, mais qui était comparable au placebo là, qui tournait aussi autour de 9,5 %. Dans les autres effets qui étaient observés, mais à une fréquence de moins de 5 %, on était plus dans les douleurs abdominales, les diarrhées, les nausées, l'insomnie, la fatigue. Et ironiquement, les bouffées de chaleur, chez 2,5 % des femmes. C'est quand même plate de prendre un médicament contre les bouffées de chaleur qui te donnent des bouffées de chaleur, n'est-ce pas?
Ben, il y a une couple de bugs des fois là-dedans. Fait qu'en
Tout
gros,
à fait.
il y a vraiment rien qui est sorti beaucoup de ce côté-là. Il y a peut-être, je sais en bon français, un black box warning sur la toxicité hépatique.
Oui, exactement. Fait que dans le fond, dans les études, il y a eu des cas rapportés d'atteinte hépatocellulaire et cholestatique dans une proportion de 2 % là, des patients. Ce qui était quand même rassurant, c'est que cet effet-là là, d'augmentation des transaminases puis du bilan cholestatique se résolvait à l'arrêt, sans séquelles. C'était une atteinte qui survenait généralement tôt dans le traitement, là, à peu près environ 40 jours après l'initiation du médicament. Mais c'était réversible. Donc, ça, c'est bien. Le seul enjeu avec ça, c'est que ça l'a fait en sorte qu'il y a des nouvelles recommandations par rapport au suivi du bilan hépatique. Donc, il suggère de faire un bilan hépatique avant d'initier le traitement. Puis, les patientes qui auraient une élévation de leur transaminase de plus que 2 fois la limite supérieure de la normale, là, seraient donc pas éligibles à recevoir le traitement. Ensuite, il suggère quand même de faire un suivi là, mensuellement pendant 3 mois, à 6 mois, puis à 9 mois par la suite, avec des critères bien définis là, de quand est-ce qu'on devrait arrêter le traitement selon les différentes élévations observables.
quand même beaucoup de travail, là.
Oui.
Là, je veux dire, ça me paraît quand même beaucoup de bilan, là, au bout du compte. Là, si on compare à nos ISRS puis notre gabapentine, mettons,
Oui,
c'est
c'est plus
sûr.
de travail.
C'est quand même plus de travail, là, pour nous puis pour la patiente aussi, je veux dire. C'est pas bénin, mine de rien, à devoir aller faire 8 prises de sang.
Ouais, surtout mensuellement au début, là, c'est.
C'est sûr, là, on s'entend, c'est le genre d'affaires que il va falloir continuer de surveiller sur une population plus large, puis tout ça, là, on est quand même limité en termes d'exposition pour le moment, là. À garder en tête certainement, puis bon, un travail, comme on disait, un peu plus important que pour d'autres produits. Il y avait, là, c'est pas clair, là, il y a comme une controverse de ce que je comprends aussi sur un possible ou pas possible lien avec un risque augmenté de cancer.
Oui, ben c'est ça, c'est que dans Skylight, entre autres, ce qui a été observé, c'est que il y avait des cas de néoplasie qui étaient rapportés, mais qui étaient assez hétérogènes en termes de type de néoplasie. Pour te donner une idée, là, il y a eu une méta-analyse qui regroupait le Skylight 1, 2 et 4. Ils ont remarqué dans le groupe fésolinétant qu'il y avait eu 11 cas de néoplasie contre 6 dans le groupe fésolinétant 30 mg et un seul cas dans le groupe placebo. Donc, si on regarde là, les ratios ajustés là, par rapport à l'exposition de néoplasie, on était à 1,2 dans le groupe fésolinétant 45 mg versus 0,7 dans le groupe fésolinétant 30 mg. Contre 0,2 par 100 sujets années là, dans le groupe placebo.
On s'entend, là, c'est des petites populations. Là, au total, là, ça donnait genre, je vais faire des chiffres ronds, je ne sais plus les chiffres exacts, là, mais ça donnait autour de 3 000 participantes quand on combinait Skylight 1, Skylight 2 puis Skylight 4. Fait que, c'est des petits chiffres, peu d'exposition. D'ailleurs, bon, la FDA, notamment, a fait une réanalyse de ces données-là, puis il semble être arrivé à la conclusion que pour eux, il n'y avait pas suffisamment de matériel pour s'inquiéter ou justifier un black box ou je sais pas quoi d'autre.
Ouais, c'est ça. Leur argument, c'était que ben, c'était pas clair qu'il y avait vraiment un mécanisme connu oncogène relié au récepteur neurokinine 3, puis que en raison de l'hétérogénéité là des différents types de néoplasie, pour eux, c'était pas possible de faire un lien là, clairement causal entre le fésolinétant puis la survenue de cancer.
Non, tu sais, c'est pas comme si c'est ça, les cas que tu parles, c'était pas un type de cancer qui a vraiment sorti du lot, puis rien de ça, fait que. Je pense qu'il va falloir garder l'œil ouvert, ça aussi, comme un peu l'hépatite excitée. C'est des choses qui pourront être mieux documentées probablement en post-commercialisation, là. OK,
Exact.
excellent. Fait que quand même une tolérance, en tout cas, là, si on oublie l'hépatite excitée avec des petits chiffres, ça nous a dit autour de 2% des femmes, puis on ne parle pas ici de conséquences ou de séquelles ou de complications cliniques. Là, on parle de paramètres biochimiques. Puis un petit astérix difficile, je trouve, à interpréter ou à utiliser en pratique pour le moment là, par rapport au risque de néoplasie. Y a-t-il des personnes chez qui autrement on voudrait pas utiliser ce produit-là?
Ben, peu de contre-indications, je te dirais. En lien avec le risque d'hépatotoxicité, là, c'est contre-indiqué chez les femmes qui sont cirrhotiques. Puis au niveau de l'insuffisance rénale, là, c'est plus contre-indiqué s'il y a un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 cc minute. Sinon, ben évidemment, chez celles chez qui il y a une hypersensibilité aux composantes du médicament, là, comme à peu près
Ouais, ben
n'importe quel médicament. Puis l'autre chose, ben on ne devrait pas l'utiliser chez la femme enceinte ou qui allaite, mais on s'entend que ça cote pas vraiment dans notre définition des femmes avec des bouffées vasomotrices associées à la ménopause. Fait que je pense que ça aussi, c'est peu significatif, là, comme.
il y a peut-être le, tu sais, je sais pas dans l'indication officielle au Canada, là, parce qu'il y a ça souvent dans ces produits-là, c'est indiqué probablement jusqu'à un âge limite, ça se peut-tu? Genre, je sais pas, là,
Oui, c'est
65 ans ou.
exact, 18 à 65 ans, parce que ça n'a pas été étudié dans les populations plus âgées. On n'a pas de données
Alors
encore.
que ça, en pratique, contrairement aux femmes enceintes ou qui allaitent, tu sais, on le sait, là, on essaye de les arrêter le plus possible, évidemment, une fois de temps en temps, ces traitements-là, pour voir si c'est encore pertinent, puis tout ça, mais on a quand même un certain nombre de patientes qui se ramassent avec une utilisation prolongée puis qui dépassent le 65 ans. C'est pas qu'on ait des inquiétudes particulières documentées chez les femmes plus âgées, juste qu'ils n'étaient pas dans les études, c'est ça?
C'est ça.
Alright, fait qu'il reste évidemment la vraie question.
Combien ça coûte, hein? C'est ça que tu veux savoir.
Ben, tu me connais, je suis un gars économe, hein?
J'ai appris avec les années à te saisir là-dessus. Fait que Fezolinetant, pas sur la liste des médicaments remboursés par la RAMQ, évidemment. On parle d'un prix mensuel, là, sans compter les frais et les honoraires du pharmacien, autour de 170 $.
Ou la boulette.
Pour... Oui, c'est ça. Disons que si on compare à nos ISRS, IRSN et gabapentinoïdes de ce monde, là, qui ont des taux d'efficacité, comme on disait tantôt, qui sont quand même similaires, on parle de traitements qui varient entre 5 et 20 $ par mois. On est dans du substantiellement plus élevé là, avec le Véozard.
Fait qu'en gros, une conclusion assez typique de nouveaux médicaments, c'est-à-dire efficacité significative si on compare un placebo. Pas incroyable, clairement, par rapport au traitement existant. Un profil d'innocuité, quand même, qui me semble pas inintéressant. T'sais, on le sait, on en a des patients qui ne tolèrent pas bien nos ISRS, puis nos gabapentinoïdes et compagnie. Mais un prix qui fait qu'on devrait probablement y penser vraiment qu'on est un peu à court d'idées, là.
Oui, c'est ça. Tu sais, je te dirais, au prix que ça coûte par rapport à une efficacité comparable à d'autres options qu'on a, je pense que ça devrait pas être le premier nécessairement en haut de la liste. Du moins, moi, en clinique, c'est un peu comme ça que je le raisonne. Maintenant, pour ceux qui auraient des contre-indications à d'autres molécules, non hormonales ou qui n'auraient pas répondu ou quoi que ce soit, ben, je pense que ça reste quand même une option dans notre attirail de traitement.
Excellent. Ça fait le tour de ce qu'on voulait dire, Amé, sur le Veozah.
Oui.
Un petit mot plus rapide sur deux autres produits qui sont arrivés aussi, qui sont maintenant approuvés au Canada. On a premièrement le Roflumilas topique. Fait que le Roflumilas, en fait, ça devrait sonner des cloches parce que c'est un vieux médicament en pilule. C'était commercialisé, et je l'ai encore, là, j'imagine, sous le nom de Daxas pour notamment la MPOC. Ça pas beaucoup levé, là, parce que ça venait avec notamment un profil d'innocuité très peu intéressant. Fait que bref. Fait qu'une vieille affaire, mais qu'ils ont maintenant mis dans une crème. Hein? Pourquoi pas? Fait que le Roflumilas, là, c'est. Amé, tu dois connaître ça, là. Ça vient. C'est un inhibiteur sélectif de la PDE4.
Tout à fait.
Ça, tu vois, c'est quand même des abréviations que je connais au moins.
Ouais, c'est des choses qu'on a plus entendues, ça, ouais.
Ça me paraît déjà plus sensé que les autres mots que tu inventais tantôt, là. Tu vois, moi,
Connais les
je...
PDE5 aussi, ça c'est...
Oui,
C'est ça.
ça touche d'autres choses, d'autres choses.
OK.
Donc, Roflumilas topique, qui a beaucoup d'indications au Canada maintenant, là, fait qu'il y a un produit commercialisé, je ne sais pas trop comment on le prononce, ZORYVE, fait qu'évidemment, un de ces nombreux produits qui participent à la compétition secrète de noms de médicaments avec le plus de points Scrabble. Tu es au courant de ça, Amé?
Oui,
Une grosse
j'ai.
compétition internationale de ces dernières années. Mon Dieu, les gens se dépassent. Ils réussissent des fois même à coller deux Y de suite ou des
Ben,
affaires de
c'est
même,
ça
là,
que
c'est.
j'allais dire. Il manque un peu de. Tu sais, il aurait pu mettre deux Y ou rajouter un H ou.
Hey,
Ils
deux Z en
sont quand
partant.
même allés. Oui.
Deux Z en partant, ça, c'est payant, là. Mais non, fait qu'ils sont allés avec ZORYVE, fait que j'arrive.
Ben, c'est comme ça que je l'aurais dit.
Moi aussi, j'arrive, c'est ce que j'aurais dit.
Je trouve qu'ils n'appellent pas d'accent tonique particulier. Je sais pas. Fait que le Roflumilas topique, le ZORYVE, bref, qui est indiqué officiellement au Canada maintenant dans le traitement du psoriasis sans plaques, de la dermatite atopique et de la dermatite séborréique. Quand même, ils se donnent. Puis
Non,
là,
mais on va
ils
se
ont...
le dire, là, ils l'ont quand même badigeonné sur toutes, là.
Oui, absolument. Ils ont fait des produits différents en plus. Là, fait que pour la, mettons, le psoriasis, c'est une crème de Roflumilas 0,3 %. Pour la dermatite atopique, c'est une crème 0,15 %. Puis pour la dermatite séborréique, en considérant le capillaire, sont allés avec une mousse. Ça, c'est bien, ça. C'est bien pensé. Fait qu'ils ont fait, pour toutes ces indications-là, des études, n'est-ce pas? Par exemple, le psoriasis, ben, on a un peu comme tu as parlé, Amé, là, fait que les deux études pareilles, eux autres sont allés avec Dermis 1 et 2.
Ah,
Eh
c'est
bien, tu sais.
conservateur quand même
Ouais, mais
comme.
tu sais, c'est en même temps, il y a un lien. Mettons, parce que
Oui.
Skylight, je sais pas. Je sais pas. C'est pour te permettre de voir la lumière au bout de la nuit pénible dans ta chaleur et ta sueur. Je sais pas.
Impossible. C'est sûrement ça.
Mais
C'est sûrement
bref,
ça.
Dermis 1 et 2. Fait que assez typique, là, étude de dermato. On a pris des gens de 2 ans et plus avec un psoriasis qui avait une atteinte significative, pas parfaitement contrôlée, mais des gens autrement en santé, puis assez stable. Puis là, bon, on les a randomisés à du Roflumilas en crème une fois par jour, à un placebo. On a suivi ces gens-là pendant 8 semaines. En termes d'issue primaire, on regardait le succès C'est la même affaire. On a déjà parlé dans des études d'acné, dans des épisodes, il n'y a pas super longtemps d'ailleurs, là. Fait que c'est un score, l'IGA, qui est un score de 0 à 4. Plus le score est élevé, plus tes lésions cutanées sont problématiques. En gros, là, il y a des petites phrases là, un peu plus détaillées pour pouvoir donner un chiffre à un patient. Puis plus le chiffre est bas, bien, mieux que t'es. Puis le succès, c'est défini comme l'atteinte d'un score de 0 ou 1, ce qui est, bref, la disparition complète ou presque complète des lésions. Puis une diminution d'au moins 2 points sur l'échelle. Ça prend ces deux affaires-là pour avoir un succès.
Puis il évalue
Exact.
ça en regardant là, l'épaisseur des plaques, le fait d'avoir des squames ou pas, puis l'érythème.
Exact. Fait que 881 participants, âge moyen de 48 ans, avec un score IGA moyen à l'entrée de 3, qui serait considéré comme modéré. À 8 semaines, ben 40% de succès avec le roflumilast en crème. Compte, selon l'étude, là, 6-7% de succès avec le placebo. Ici, on voit que le placebo, beaucoup moins efficace qu'en bouffée de chaleur. C'est pas terrible, le
C'est clair.
placebo en psoriasis, avec un NNT, donc, qui serait quelque part entre 3 et 4.
OK.
Pas mauvais, pas mauvais. Deuxième indication, la dermatite atopique. Ici, ils sont allés avec les études intégument 1 et 2. Ils restent, eux, ils font des noms quand même dans le thème, là.
Ouais.
Fait que personne de 6 ans ou plus avec une dermatite atopique, un peu même concept, là, fait que significative, pas bien contrôlée, mais des gens autrement en santé, puis tralala. Avec encore une fois un score IGA, mais ici adapté pour la dermatite atopique, donc toujours le score de 0 à 4. Fallait que les gens aient au moins un score de 2 ou 3. Puis là, ben, au bout de 4 semaines, celle-là est un petit peu plus courte. Au bout de 4 semaines, sur les 1337 participants qui ont été inclus dans le groupe ayant reçu le roflumilast topique, à peu près 30% ont un succès, contre un peu moins de 15% dans le groupe placebo, ce qui se traduirait par un NNT à 6. Un petit peu plus de réponses au placebo, puis un petit peu moins de réponses au traitement en dermatite atopique qu'en psoriasis. Fouillez-moi. Finalement, la
Ben,
dernière. Ouais,
je pense
vas-y.
que c'est parce que la dermite atopique, tu sais, même juste l'hydratation, c'est un traitement, là. Peut-être que le placebo, il y avait c'était un véhicule un peu hydratant,
Ah,
c'est
ben
pas.
oui, absolument, absolument.
Ben, tu vois, Nico, ça suscite une question chez moi, en fait. Tu sais, par rapport, parce que là, on s'entend, là, ils ont fait ça contre placebo, fait que tu sais, entre ne rien faire puis mettre quelque
Ouais,
chose qui marche, bon. Mais entre des corticaux, mettons, puis.
je vois où tu t'en vas. Je pensais y revenir après la dermatite séborréique, mais oui, visiblement, pour faire approuver un nouveau traitement dans ces indications-là, les autorités n'exige donc pas que tu fasses une comparaison au traitement dit standard. Ce qui est, soyons honnêtes, là, un peu absurde. Mais malheureusement, je ne peux pas inventer là, de chiffres. On a des données, évidemment, par exemple avec les corticos, on en a avec d'autres produits en psoriasis et compagnie. Fait quoi, ce n'est pas des chiffres qui me paraissent très impressionnants, mais je n'ai pas de comparaison directe. Même chose en dermatite séborréique, où ici on a seulement une vraie grosse étude de phase 3. Là, ils ont utilisé une autre étude, mais de phase 2 pour faire leurs deux études. Dans leur étude de phase 3, ils ont pris des gens de 9 ans et plus avec une dermatite séborréique. Quand même significative, encore une fois, là, tout le même genre de critères d'inclusion. Puis ici, ils ont mis la mousse, on se rappelle. Faut le mentionner d'ailleurs dans ma graphie, c'est très clair. Il ne faut vraiment pas approcher de flamme ou d'étincelle de la bouteille de mousse. Ça pourrait créer des enjeux, là, de type incendiaire. Puis au bout de 8 semaines, en dermatite séborréique, tu vois des chiffres très différents. Succès avec le roflumilast chez 80% des gens qui ont utilisé la mousse, mais aussi chez presque 60% des gens qui ont utilisé le placebo. Fait que oui, pour revenir à ton point, Amé, dans toutes ces indications-là, on n'a pas de comparateur, bref, actif. Ça rend donc très difficile la mise en perspective du produit. Fait que les deux autres affaires qu'on va regarder dans ce temps-là, ben, c'est l'innocuité et le prix. Et vous allez vite vous rendre compte que là, ça perd de son intérêt assez vite,
C'est là que le bas blesse.
là. Ouais, clairement. Clairement. Tes poches blessent. Tout blesse, là, je te dirais, là. Fait que si on regarde l'innocuité, bon, ça, c'est pas si mal. Il y a quand même étonnamment les effets indésirables les plus fréquents. On se rappelle qu'on se met de la crème ou de la mousse, là, sur la peau. D'habitude, les effets indésirables dans tous ces produits-là, c'est tout le temps genre irritation puis des cossins de même. Ici, on a diarrhée. Chez 2 à 4 % des gens. Il semble être plus fréquent que chez les gens ayant reçu le placebo. Je sais pas. C'est là, Amé, qu'avec toutes tes connaissances, là, de mécanismes d'action et de fonctionnement là, du corps humain. Là, tu nous expliques pourquoi te crémer avec une bouteille de la PDA4, ça te fait de la diarrhée, mais.
Je vais passer mon tour sur celle-là. Je
On a.
pourrai pas t'aider.
Bon. Mais c'est ça. Il y a ça qui est sorti là, je peux pas vous en dire plus, vous devinerez. Mais tu sais, après ça, on a des nausées, des céphalées, des affaires, bref, systémiques, mais avec des petits chiffres absolus, soyons clairs, là, fait que je suis pas sûr que ça vaut la peine de s'inquiéter avec ça. Mais clairement, mettons que vous l'essayez puis que la personne vous dit qu'elle a l'impression qu'elle fait plus de diarrhée depuis, ben, c'est possible. Ils ont même les fameuses rhinopharyngites qui sont sorties, là. Lisa, t'es habituée,
Ouais,
là, tu sais, qui sortent avec tous les nouveaux médicaments, les fameuses rhinopharyngites. On l'a pas compris encore, celle-là, nous autres, amis, là, dans toutes les études de nouveaux médicaments depuis, je sais pas, 10 ans. Là. Peu importe, c'est dans quel domaine, peu importe le médicament, fait quoi, rhinopharyngite. Je sais pas. Ça reste un mystère pour moi encore ce soir-là. Mais tu sais, sinon, il n'y avait pas de différence sur les abandons au traitement à raison des fins indésirables, par exemple, ou ce truc-là. Fait que c'est rassurant en termes d'innocuité. Là où le bas blesse, vous l'avez dit, c'est le prix. Tâchez votre sucre avec de la broche. Pour 60 grammes de mousse ou de crème, on est autour de 300 $. Pour vous donner une idée, une livre de bêta-métazone topique, une
Une
livre, on parle de beaucoup de crème ici, on est autour de 40 $. Fait que, on est à des années-lumière, là, en termes de comparaison de prix, clairement. Fait que, t'sais, chapeau, reflux mylas, on a une nouvelle option, un mécanisme d'action différent, un potentiel d'efficacité qui a été bien démontré dans des études contre placebo, un profil d'innocuité qui ne me semble pas être particulièrement problématique ou inquiétant, mais clairement un prix qui en fait une option là, un peu loin, je pense, dans nos algorithmes de prise en charge.
Non, mais tu sais, pensez-y bien, là, on s'entend, là, pour le même prix, tu peux avoir 7 livres et demi de bêta-métazone.
Ouais.
Aïe, aïe, aïe.
Bon.
Fait que c'est là que le bas blesse, effectivement.
Ouais.
Fait que voilà pour le reflux mylas topique. Fait que je répète, là, je veux dire, bienvenue au reflux mylas. Ça me paraît pas inintéressant, mais clairement, il va falloir choisir les personnes à qui ça peut en valoir la peine. Petite mention spéciale en terminant. Il y a le Rebiota qui a été approuvé au Canada récemment aussi. Puis
Encore avec
juste.
un Y.
Ah, oh, ben oui, il participe.
Évidemment.
Il participe aussi à la compétition internationale. Premier produit approuvé au Canada de microbiote fécal vivant en produit là, commercial. Fait que c'est, tu
Ouais.
sais, il y a eu plein d'études depuis déjà, mon Dieu, il doit faire au moins 10 ans qu'on a des études là-dessus, là. L'idée de transplantation de selles pour le C.
Oui.
difficile.
Oui.
Puis je trouvais juste intéressant qu'il y ait maintenant un produit donc disponible. Là, ça vient dans une boîte, puis tout, là. De selles. Là, c'est sûr, je vois venir avec la fameuse question. Là, c'est les selles de qui? Je ne sais pas, mais c'est des selles humaines. Puis là, j'imagine qu'il y a quand même un petit processus de purification. Puis tout ça, fait que c'est approuvé au Canada. Je ne suis pas sûr qu'il est disponible là, déjà, mais il est approuvé. C'est une utilisation intrarectale pour
Cute.
la. Oui, effectivement. Pour la prévention des récidives de C. difficile. C'est pas un traitement là, de C. diff, c'est une prévention de récidive après le traitement.
J'ai lu un peu là-dessus, là, après qu'on s'en soit parlé. Tu sais, il disait même que, justement, pour les échantillons, là, on se posait la question, là, d'où ça venait, là, ben, pour être sûr qu'il y ait un tracking possible, ils ne mélangent pas les échantillons. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils sont, avec un lot, sont capables d'identifier c'est quel donneur de sel, là, précisément. Puis de, fait que, puis tout est analysé pour être sûr qu'il n'y a pas contamination pathogène, infection possible, transmissible. En tout cas, ça a l'air d'être. Mais j'ai cherché là, la façon, là, le processus de comment c'était fait, puis ça, j'ai pas réussi à trouver, là.
Tu vois, moi, je peux aller jusque-là. Fait que voilà, le Rebiota. Bon, fait que je pense clairement, là, ça fait le tour de ce qu'on voulait jaser aujourd'hui. Fait que, ben, merci, Amé, de t'être jointe à nous.
Ben, grand plaisir. Merci de m'avoir reçu.
T'as survécu, finalement?
Tout à fait.
Bon, parle-moi de ça. Autrement, ben, en terminant, un petit message habituel. Si vous avez des plaintes, des questions, des critiques, des commentaires, on vous invite à communiquer avec Olivier.
C'est encore plus facile quand il est pas là.
Ben oui, j'adore ça. Sinon, ben, on s'en parle bientôt.
Bye, merci Amé.
Bye, salut là.
Ciao!
L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.